Sizetana.
Sizetana.
Anastasis.
Anastasis.
Sizetana. Anastasis. Anastasis.
Vous écoutez Anastasis International, le premier podcast de théologie politique qui s'applique à penser l'époque et le monde. Anastasis, mot grec choisi par les premiers disciples du Nazaréen pour dire la résurrection. Mot grec désignant littéralement le fait de se lever, réveil, soulèvement. Mot grec emprunté au langage politique de l'Antiquité dans lequel il désigne l'insurrection. Résurrection, insurrection, Anastasis International. Anastasis International entend réactiver la puissance politique de la résurrection du Christ.
Alors que la religion est gentiment confinée dans la sphère personnelle, alors que sous prétexte d'autonomie des choses temporelles, la puissance politique du royaume est étouffée et réduite à des questions de morale privée, nous voudrions entendre le « que ton règne vienne » évangélique dans toute sa puissance messianique pour destituer toute idolâtrie politique ou économique et profaner toute séparation pour instaurer la communion.
Résurrection, insurrection, Anastasis International. Pourquoi Anastasis International ? Parce que nous pensons que le christianisme possède une puissance politique universelle. Parce que rien de ce qui survient dans l'actualité mondiale ne nous est indifférent ni étranger. Parce qu'à l'ère du capitalisme mondialisé, il nous faut conjuguer une conscience des réalités les plus larges avec une réflexion sur les actions politiques concrètes. Bonjour Marc Rastoin.
Bonjour.
On est heureux de te recevoir, Thérèse et moi, Benoît, pour ce nouveau podcast d'Anastasis, pour parler avec toi de la question du messianisme. Alors, pour te présenter rapidement, tu es jésuite, prêtre donc, bibliste, enseignant au Centre Sèvres à Paris, et très engagé dans le dialogue judéo-chrétien. Voilà, on voulait commencer ce podcast en parlant de cette figure du messie et du messianisme, avec aussi en tête que messianisme est peut-être souvent un adjectif négatif, qu'on va reprocher aux hommes politiques d'être messianiques, et ce sort de sentiment qui fait que nous, chrétiens avons tendance à mettre le messianisme à distance, comme si c'était quelque chose qui ne nous concernait pas. Or, je crois que tu vas nous en dire plus, mais finalement la question messianique est quelque chose d'extrêmement important pour le christianisme.
Le christianisme est un messianisme. Les premiers chrétiens sont des juifs de Galilée et de Jérusalem qui disent que Jésus est le Messie de Dieu. Et en outre, quelqu'un qui a une intimité particulière avec Dieu, une unité avec Dieu, qui n'est pas non plus une affaire entièrement nouvelle dans le judaïsme du temps. Il y a notamment tout ce courant énochien hein, du livre d'Énoch, qui développe la figure du fils de l'homme. Voilà, un fils de l'homme qui s'inspire du livre du prophète Daniel. « Je vis comme un fils de l'homme qui... » etc. Et ce fils d'homme, voilà, comme dit mon ami Daniel Boyarine, chevauche les nuées du ciel, ce qui est un mode divin de transport. Nous prenons le métro et le fils de l'homme chevauche les nuées du ciel. Et il a un trône et il juge. Le fils de l'homme juge. Et Jésus va parler du fils de l'homme venant dans les nuées du ciel pour juger. Or, c'est un point que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Pourquoi normalement seul Dieu est juge? Parce que pour juger les hommes, il faut connaître les reins et les cœurs, il faut connaître les intentions, les pensées profondes. Ce que nous ne savons pas faire, nos juges humains, ben, ils font ce qu'ils peuvent, mais je veux dire, nous ne pouvons pas juger du jugement eschatologique, du jugement radical d'une vie, si l'on n'a pas la connaissance que Dieu a des hommes. Ce qui veut dire que ce fils de l'homme a la même connaissance que Dieu du cœur des uns et des autres. Et alors, on est un peu trompé par cette question des ismes. On dit judaïsme, on dit christianisme, on dit même messianisme. Mais les ismes donnent l'idée d'être des conceptions, des idéologies. Il faut revenir dans le monde de ce temps, dans le monde de la Bible. On peut parler du mouvement chrétien, de l'école de Jésus. C'est pas d'abord un isme. Et Jésus n'est pas venu fonder un isme, ni une religion. Au sens où nous l'entendons banalement, une religion, ça a des rites, des dogmes, un credo, c'est pas du tout son problème. C'est le cadet de ses soucis. Il représente un mouvement juif radical, eschatologique, voilà ce mot compliqué qui veut dire lié aux fins dernières, qui est lié au fond à cette conviction fondamentale, Dieu agit ici et maintenant en Israël, dans l'histoire. Et non seulement ça, mais ce qu'il est en train de faire ici, petitement en Israël, a une portée pour toutes les nations.
Et alors, du coup, il faut s'arrêter sur ce mot « Messie », alors, qui est traduit en grec par « Christ », qui donne « christianisme ». Et donc, avec nous, on a cette lecture a priori souvent de dire « le christianisme est une autre religion que le judaïsme, qui est la religion du Christ ». Mais si, évidemment, comme tu le rappelles, le christianisme est un messianisme, c'est-à-dire la venue du Messie attendue par Israël, alors ça change tout. C'est quoi le Messie ? C'est qui ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà, on a un peu l'idée communément dans notre société, après tout c'est bien normal d'ailleurs, il y a des religions, voilà, il y a différentes religions qui ont une histoire plus ou moins longue, des rites différents, et elles sont un peu voilà, dans des boîtes les unes à côté des autres, on en choisit une ou une autre, et elles sont bien séparées. Donc l'idée, le messianisme chrétien, une fois de plus, on ne peut pas nier que le christianisme soit devenu maintenant depuis 2000 ans une religion, de fait, et différente du judaïsme, de fait, mais elle part d'une autre religion, elle part d'un autre bain culturel et religieux, et d'une écriture. Voilà, notre Bible, c'est la même que celle des Juifs. Et donc, une fois de plus, tous les premiers chrétiens, Saint Paul y compris, mais ils n'ont pas, ça ne leur traverse pas l'esprit qu'ils sont en train de créer une religion. Au sens, une religion, justement, aurait la vie devant soi. Hein, bon, on va créer un joli concept. Bon, alors, on a des rites, ils sont sympas, plus ou moins, etc. Non, il faut revenir à Jésus, et on bénéficie quand même d'une chance extraordinaire depuis une cinquantaine d'années, je dirais au moins, découverte des manuscrits de Qumran, redécouverte du Jésus historique, enfin, après des siècles de parenthèses, on redécouvre Jésus dans son environnement juif et dans son humanité. Voilà. Alors, un autre grand problème, on peut dire, du christianisme, entre guillemets, c'est que, comme l'a dit un célèbre théologien dans les années 50, beaucoup de chrétiens sont spontanément monophysites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne voient en Jésus que le Dieu, la divinité. Donc l'idée d'un Jésus qui est un juif de son temps, qui est un juif d'ailleurs, je veux dire, ordinaire, qui pratique, qui va à la synagogue le Shabbat, qui pratique comme on pratique dans les villages juifs galiléens pieux du temps, s'opposant notamment à certaines innovations des pharisiens de Jérusalem, il faut se laver les mains avant les repas, des choses comme ça. Jésus dit, bon, je ne suis pas contre, mais enfin, ce n'est pas dans la Torah, pourquoi bon. Donc, de dire Jésus, c'est quelqu'un qui a médité l'Écriture, qui a prié sur des textes bibliques, qui parle donc d'une figure un peu mystérieuse qu'est le Messie. Et là aussi, souvent, comme chrétien, on se dit, bon, bah oui, le Christ, les Juifs, nos catéchismes commencent, les Juifs attendaient le Messie, bon, bah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup de Juifs n'attendaient rien, un certain nombre de Juifs attendaient un Messie, il y avait différents programmes messianiques, différentes possibilités, parce que le texte biblique se prêter à différentes lectures. En d'autres termes, si on lit l'Ancien Testament en hébreu, que doit être exactement, ou qui sera, et s'il y aura une figure future que Dieu va envoyer pour restaurer, réveiller, relever, guérir Israël, et par là même aussi les autres nations, accomplissant le rêve depuis Abraham, voilà, Israël sera une bénédiction pour toutes les nations, et le rêve des prophètes, que tous les gens du monde entier viendront à Jérusalem, se tourneront vers le Dieu vivant, voilà, que c'est maintenant. Ben voilà, Jésus a eu à faire des choix spirituels basés sur sa lecture des Écritures. Et il a, si je puis dire, inventé son messianisme, que certaines personnes ont jugé convaincant, ont été touchées, et d'autres pas. Mais il a fait œuvre de créativité aussi humaine. Un de mes professeurs, un grand exégète jésuite, Paul Beauchamp, aimait à dire, voilà, ce qui est très étonnant, c'est comment Jésus peut être attendu et inouï. Comment peut être à la fois, au fond, quelqu'un qui correspond à une demande de certains textes bibliques, et en même temps, employer des expressions ou dire des choses que personne n'a jamais dit. C'est curieux quand même quand on y pense.
Et c'est peut-être même ce fait qu'il soit à la fois attendu et inouï, c'est peut-être un trait messianique par excellence.
Par excellence,
oui. Finalement, quand tu rappelles que la figure du Messie, elle est plurielle, etc., peut-être l'élément de cette figure messianique, c'est que attendu et inouï, je pense en entendant ça, à ces formules d'Isaïe 53 qui nous décrit le serviteur souffrant, donc cet homme écrasé qui est attendu, qui arrive, et à la fin, les rois sont bouche bée. On est complètement surpris par ce qui advient. Et finalement, c'est peut-être aussi un élément caractéristique de ce que veut dire Messie.
Alors, j'avais forgé cette formule il y a quelques années du christianisme. Le christianisme est un isaïanisme, une prise au sérieux radicale d'Isaïe dans toutes ses dimensions, à la fois sur la figure, entre guillemets, individuelle du Messie, mais qui est aussi, qui a une dimension collective et qui touche le collectif, parce que les quatre chants du serviteur, dans l'un des chants du serviteur, il est qualifié d'Israël, et dans l'autre, au fond, il fait quelque chose pour Israël. Alors, on a fait de la logique élémentaire, on dit, alors je ne comprends pas, il est Israël ou il est quelqu'un en Israël? Ben, les deux sont vrais dans Isaïe. Et cette ambiguïté est fondamentale. Voilà, on peut dire le cœur de la foi juive et le cœur de la foi chrétienne correspondent sur un point fondamental. Dieu donne la vie dans des situations traumatiques improbables. Dieu donne la vie à un moment où il n'y a pas d'espoir. Donc, le cœur de la foi juive, le Seder de Pâques, qui arrive bientôt, comme pour nous, c'est un peuple a passé la mer et revenu à la vie. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. On peut l'appeler au singulier, voilà, le fils, mais c'est un peuple. Mais ça passe par la foi d'un homme, Moïse. Donc le peuple mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Verset d'un christianisme total, si je puis dire, qui me stupéfie toujours, le dernier verset du chapitre 14 de l'Exode. Comment tu peux oser mettre sur le même plan de l'acte de foi Dieu et Moïse? Mais parce que sans Moïse, le peuple ne passe pas. Et puis en Jésus, un homme passe la mort, voilà la résurrection, centre du credo. Voilà, la fin du monde tangentialise l'histoire, enfin quelque chose de notre espérance que Dieu est le Dieu de la vie et veut la vie pour tous les fils, se donne dans un seul homme. Mais si c'est qu'un seul homme, comme dit Paul, ça n'a aucun intérêt. La résurrection, nous sommes morts avec le Christ, et on va dire très vite « nous ». Comme dans le verset d'Osée 6.2, le troisième jour, il nous rendra la vie. Pourquoi le troisième jour est le jour du don de la vie? Dans Osée, ce n'est absolument pas dit du Messie. C'est dit du peuple, c'est dit de tout le monde. Alors pourquoi? Voilà. Et en permanence dans la Bible, il y a ce balancement entre tous et un. Et le Messie incarne cela totalement. Alors, je peux dire aussi un mot sur la nouveauté. C'est aussi une affaire qui me travaille depuis quelques années, pour l'illustrer. Comment Jésus va, dans son enseignement et dans sa prière, et dans son choisir des mots, au fond, logiques quand on connaît la Bible, mais nouveaux. Par exemple, le grand mot qu'il apporte, c'est Abba. Bon, Abba, père. Même Abba, père, entre père et papa, mais pas papa dans un sens papa gâteau, mais bon, dans un sens quand même très, très, très paternel. Je me souviendrai toujours à Jérusalem en 95. Dans une rue très passante, j'entends un gamin de 7 ans qui dit « Abba, Abba !» parce qu'il avait perdu son père dans la foule. Donc, il y a quelque chose de très familier, enfantin, dans le bon sens du terme. Est-ce que le mot est dans la Bible, Abba? Ben non. Mais est-ce qu'il est surprenant? Ben non, d'Égypte, j'ai appelé mon fils, que Dieu soit père, tu es notre père, notre rocher. C'est rare qu'on appelle Dieu père dans la Bible, c'est pas du tout l'expression la plus fréquente, mais elle existe, c'est cohérent, mais c'est nouveau. Sur l'espérance, il y a un très beau petit livre que je recommande sur l'espérance de Blandine Lagrue, l'espérance. Quel est le concept qui traduit l'espérance de Jésus? C'est le royaume de Dieu, Malchut HaShamayim, le royaume des cieux. Ça, clairement, on peut bâtir une argumentation, ça se déduit partout dans les évangiles. Est-ce que l'expression royaume des cieux est dans la Bible? Ben non, comme ça, non. Mais Dieu règne, Dieu a une dimension d'ordonnancement du cosmos, il est le roi et c'est la métaphore politique centrale. Donc elle n'est pas nouvelle cette expression, mais en même temps elle est nouvelle. Et puis pour ce qui est de la charité de Jésus, de comment on voit les personnes, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. On dit souvent il y a les pauvres, oui, Jésus parle des pauvres, bon, ça c'est pas nouveau, Lévitique en parle beaucoup. Bon, moi des gens à qui j'en parle me disent le prochain, ben oui mais enfin Jésus deux fois et puis il cite le Lévitique, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas particulièrement nouveau, enfin, encore s'agit-il de le faire, c'est pas une autre affaire, mais enfin. Et alors, tout d'un coup ça m'est venu, les petits. Jésus parle des petits comme personne n'a jamais parlé des petits avant. Et ce n'est pas du tout une expression biblique pour parler... Bon, il parle des brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est le chapitre 34 d'Ézéchiel. Voilà, je vais m'occuper de mes brebis malades et tout. Donc Jésus s'inscrit dans ce courant prophétique. Il s'occupe des brebis. Mais les petits, ça, c'est nouveau. Et notamment, par exemple, les bébés. Les bébés, ça n'a aucun intérêt. Ça ne pratique pas la loi, ça ne parle pas, ça meurt tout le temps. Hein, 50% vont mourir avant l'âge de 6 ans. Aucun maître spirituel, aucun prophète ne s'intéresse aux bébés. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et ça va susciter une réaction extrêmement violente des disciples, à ce moment-là d'ailleurs, qui vont réprimander Jésus comme on réprimande et réprimander les gens comme on réprimande les démons. Nous sommes les disciples d'un maître sérieux. Et vous venez, jeune maman, présentez vos bébés, mais dégagez. Nous ne sommes pas une espèce de groupe de guérisseurs de bébés. Donc, on voit bien, ils sont très choqués. Et Jésus se met en colère. Parce que pour lui, ces petits, ces bébés, c'est aussi tous les invisibles. C'est effectivement les lépreux, les malades, les femmes, qui à l'époque font partie largement des invisibles. Et la position de Jésus sur la répudiation, ça, c'est vraiment le merveilleux chapitre de John Mayer là-dessus. On dit souvent Jésus le divorce. Divorce, c'est un concept moderne, ça n'existe pas à l'époque. C'est la répudiation. La répudiation, il n'y a que l'homme qui peut répudier. Jésus prend une défense des petits, c'est-à-dire de la femme, en disant non. Il y a quelque chose d'inacceptable et de contraire au dessein de Dieu dans la façon dont on traite les petits.
Et du coup, ce que je vois aussi, c'est comment, avec cette idée de Messie, il y a à la fois cette idée d'un individu particulier qui vient accomplir quelque chose, qui vient instaurer quelque chose de neuf, et en même temps, l'idée qu'on a chez Isaïe, qui est très marquée, d'une transformation du monde. C'est-à-dire qu'un individu, mais le peuple, le monde. Donc, l'avènement du Messie, c'est pas juste l'avènement d'une personne envers laquelle on va ensuite être dévot, mais c'est l'avènement aussi d'une transformation du monde.
Et là, il y a quelque chose qui est très impressionnant et à mon avis qui est hors de la conscience chrétienne, c'est l'idée que Jésus ne part pas de lui. Un vrai Messie, alors ça on le voit dans les livres de Samuel, d'abord un vrai Messie ne dit jamais qu'il est le Messie. Il ne parle pas de lui. Jamais David ne dit qu'il est le Messie alors que ça fait 20 ans qu'il a été loin. Il dit « Je ne porterai pas la main sur le Messie du Seigneur » et ce Messie c'est Saül. Et Jésus... Je mets vraiment à part, on pourrait discuter sur le cas de Jean, mais dans les synoptiques, Jésus ne dit pas « je suis le Messie ». Et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'il est centré sur un autre individu qui est Jean. Je vous le dis, parmi les enfants des hommes, il n'en est pas né de plus grand que Jean. Son test absolu,
donc Jean,
je dirais, Jean le Baptiste
qui baptise les foules avant l'avènement public de Jésus.
Et qui crée un mouvement collectif de renouveau en Israël. Et on peut dire que c'est ce que Jésus partage avec les pharisiens, avec les baptistes, avec les esséniens, avec les grands courants de renouveau spirituel. C'est un projet collectif de renouveau spirituel qui dit qu'il faut répondre à l'appel de Dieu ici et maintenant. Et ça se traduit par une forme de vie concrète qui passe par un signe de conversion, donc le baptême. Ça, donc le mouvement de Jésus s'inscrit dans le mouvement baptiste. Et c'est très intéressant que Jésus ne reviendra jamais en arrière là-dessus. Êtes-vous allé vous faire baptiser par Jean? C'est le critère fondamental. Donc au fond, la question fondamentale ne porte pas sur lui. Et pour moi, je trouve que c'est un critère de crédibilité fondamentale. Jésus est décentré. Au fond, la question qu'il pose dès le départ, c'est où est-ce que Dieu agit en Israël, ici et maintenant? On dit souvent, mais pourquoi il attend 30 ans? Pourquoi il attend ce moment-là? Mais il n'a pas le téléphone rouge. Comme on a un peu l'imaginaire comme enfant, ben, Jésus, il est Dieu, puis il est le Fils de Dieu, il est le Messie, donc ben, à un moment, il sait qu'il faut qu'il démarre. Comme on aurait... Moi je sais que je vais avoir le prix Goncourt, bon, je viens d'écrire mon roman, mon premier roman fameux, et donc il faut démarrer maintenant. Non, il dit, par quelle autorité fais-tu cela, lui dit-on à Jérusalem à la fin de sa vie. Jésus dit, je vais répondre à votre question, je pose juste une petite question simplement. Ça montre tout son art de rhéteur, et c'était un redoutable rhéteur et orateur, Jésus. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Prêtres furent dans l'embarras, car s'il disait de Dieu, le peuple, Jésus dira « Pourquoi n'êtes-vous pas allés vous faire baptiser par lui ?» Et si nous disons des hommes, alors le peuple sera contre nous, car tous considèrent Jean comme un prophète. Donc Jésus est tourné vers cette action. Ensuite, il enseigne. Alors ça, c'est un point aussi au niveau de la charité politique. Il enseigna longuement les foules, car elles étaient comme des brebis sans berger. Au moment où il fait ça, dans l'évangile, c'est pas que des malades. Et je trouve ça intéressant, d'ailleurs, les 12 disciples de Jésus n'ont été ni guéris, ni exorcisés par Jésus. Et deuxièmement, ils viennent du groupe des disciples du Baptiste. Donc c'est des gens qui ont... Et c'est là où la série The Chosen, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils font de Pierre une espèce de mec qui joue dans les tripots. Non, c'est un homme spirituel déjà. C'est un homme qui est allé voir trouver le Baptiste. Et donc Jésus s'insère là-dedans. Et comme les pharisiens, il veut donner aussi un enseignement. Des gens qui n'ont pas seulement soif d'une guérison physique, d'autres choses, ou d'un exorcisme. Et ensuite, il met en place une forme de vie à la manière des Esséniens. Donc, je disais, un jeune prêtre de Versailles qui vient de faire sa thèse, là, l'école de Jésus dans l'évangile de Matthieu, qui montre bien la façon dont l'école de Jésus, comme il dit, s'insère dans le monde du temps. Qu'est-ce qu'ils empruntent aux Esséniens?
Les Esséniens pour...
Alors, les Esséniens, c'est ce mouvement juif qui est sans doute, enfin, c'est pas sûr à 100%, mais qui est derrière ce lieu de Qumran, près de la mer Morte, dans lequel des sortes de moines viennent vivre une vie de pureté, une vie qui essaye de reconstituer la pureté du temple, parce qu'ils condamnent le temple comme corrompu dans le désert. Mais on sait aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de sympathisants, beaucoup de gens qui vivaient une vie laïque, qui étaient mariés, qui étaient à Jérusalem, qui étaient en Galilée. Et donc, ils ont, de ce point de vue-là, ils se rapprochent un peu des pharisiens, ils ont cet idéal d'étendre la sainteté du temple à la vie quotidienne.
Qui est peut-être une formule parfaite pour décrire ce que c'est que le messianisme aussi. Étendre la sainteté du temple et la sainteté de Dieu à la vie quotidienne.
Sauf que là, et c'est là que c'est intéressant, c'est beaucoup plus, j'allais dire, politique et moins sacerdotal chez Jésus. Parce que Jésus, ça ne l'intéresse pas les questions des prêtres. Ouais. Très beau chapitre aussi dans Mayer, Jésus comme laïc. Jésus ne s'intéresse absolument pas aux questions des prêtres, qui s'intéresse aux rites, qui s'intéresse aux lois de pureté. C'est ce qui rend Jésus si accessible aux femmes, source majeure d'impureté, comme chacun sait. Et du coup, il ne rentre pas dans ce jeu des Esséniens. Et du coup, le baptiste est au désert en vivant de manière bizarre, il s'est retiré du monde, il vit de manière bizarre, il mange de manière bizarre. Jésus, il va chez les gens, il dîne chez les gens, il est habillé comme tout le monde, il mange comme tout le monde, et il se fait attaquer là-dessus. Bon. Les Esséniens se retirent pour la plupart et sont dans une logique assez sectaire, au fond, les fils des ténèbres contre les fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et Dieu va juger les Romains et les détruire, etc. Et nous attendons Gog et Magog, et nous attendons ce moment où tous les Romains seront pulvérisés. Jésus, apparemment, de temps en temps, il y a des centurions romains, des Romains qui viennent le trouver, des païens, et puis, eh ben ma foi, il les écoute, il discute, il dit, bon, j'ai été envoyé d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais enfin, il est ouvert. En tout cas, il y a une forme de vie, donc de partage des repas, de partage de l'argent, bourse commune. C'est intéressant parce que Jésus ne mendie pas, il n'est pas franciscain de ce point de vue-là. Il a un réseau de bienfaiteurs, dont Luc nous donne le nom plutôt de femmes, de la haute société. Alors ça, c'est très intéressant dans l'imaginaire qu'on a du mouvement de Jésus, une espèce de mouvement un peu de marginaux, de gens un peu de la pauvre société de l'époque. Pas du tout. Les patrons pêcheurs du lac, on le sait par les nouvelles fouilles qui ont été faites depuis 30 ans, c'était une capitale de la pêche. Patron pêcheur, c'est plutôt le haut niveau, c'est des artisans, des gens qui ont des moyens. Et pour ça qu'il y a des banques, il y a de l'argent à Capharnaüm, beaucoup d'argent lié au monde de la pêche. Et puis, évidemment, Marie de Magdala, ce n'est pas exactement son statut, mais clairement elle a des ressources. Jeanne, femme de Cusa, l'intendant d'Hérode, la femme du ministre des Finances qu'il est. Donc, Jésus a des soutiens également dans, on va dire, la haute société galiléenne du temps. Et si on suit Jean à Jérusalem, proche du grand prêtre, il a aussi des gens de grande famille, Nicodème, Joseph d'Arimathie, il y a aussi des juifs de bonne famille à Jérusalem qui le soutiennent.
C'est très intéressant parce que vous montrez que cette figure de Jésus, elle est complexe. À la fois, elle s'inscrit complètement dans un courant messianique, à la fois, justement, ce courant messianique était multiple, donc on voit qu'il récupère certains signes et à la fois qu'il en invente d'autres. Et il y a une question qui est aussi très importante dans celle du Messie, qui est la question de la temporalité. Finalement, ce messianisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est l'accomplissement aujourd'hui ? Alors de quoi ? Du coup, qu'est-ce que ce royaume ? Est-ce que c'est un accomplissement aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on attend le retour du Christ ? Donc du coup, il y aurait un horizon eschatologique vers lequel il faut tendre. Et ça pose bien sûr la question que vous avez déjà évoquée, qui est de dire, que fonde Jésus ? Est-ce qu'il fonde une religion ? Ou est-ce qu'il est justement le Messie ? Et donc, il en sort quelque chose de nouveau, un messianisme. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer sur cela ? Parce que on a souvent cette idée que le christianisme nous apporte justement un horizon eschatologique et que cet horizon eschatologique a pu être sécularisé par la suite. On parle de sens de l'histoire, ce qui a donné une vision qui peut être progressiste d'une histoire qui avance. Est-ce qu'effectivement, on peut dire que ce sens de l'histoire est le fruit du christianisme ou non ?
Alors déjà, je pense que Jésus ne fonde rien du tout. Sa vie... C'est une conviction spirituelle que Dieu est en train de réaliser quelque chose en Israël et qu'il a envoyé Jean-Baptiste. Et que lui, Jésus, a une mission de continuité avec Jean et qui s'inscrit dans le dessein de Dieu. Donc effectivement, s'il faut une temporalité, la temporalité chrétienne la plus fidèle à Jésus, c'est l'ici et le maintenant. Où est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, Dieu agit dans le monde ? Ça vraiment, je serais très, très ferme là-dessus. Par ailleurs, quand on lit John Mayer sur son rapport au royaume, qui est le concept qui organise son enseignement, on ne peut pas résorber une tension entre une dimension clairement de présence et qui traduit son espérance théologale et sa foi, au fond, que Dieu agit ici et maintenant dans l'histoire. Donc, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse ces démons, alors le royaume est arrivé parmi vous. Donc, le royaume, il y a des signes du royaume. Mais tout le monde n'est pas guéri. Il y a encore beaucoup de souffrances, beaucoup de tensions, beaucoup d'oppressions, beaucoup de péchés dans le monde. Et ça, il voit le péché comme le voient les Esséniens, comme le voient les pharisiens. Il n'est pas du tout aveugle sur le mal. Il est très lucide. Mais il y a des signes que Dieu agit. Et par ailleurs, que ton royaume vienne, donc il attend, il demande que la prière soit tournée vers une réalisation parfaite de ce royaume, complète. Voilà. Et ça, ça doit être en permanence. Alors après, ça devient toujours difficile de voir quel texte dise « Bon, il reviendra, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger. » Il y a une dimension eschatologique. Le plus qu'on peut remonter, clair, quand on demande à Jésus, au fond, « Mais quand hein, ?» Les abonnés, alors quand, c'est quoi? On a combien de temps ?» Et Jésus dit « J'en sais rien. Nul ne le sait, si ce n'est le Père. » Et ça, c'est la conviction de tous les prophètes. 1000 ans sont comme un jour, 3 ans, encore un temps et la moitié d'un temps. Il y a plein d'expressions dans les prophètes pour dire, bon voilà, c'est là, et en même temps, c'est pas encore là. Et donc il y a une tension.
Et j'ai l'impression que, enfin, moi pour moi-même, dans ma foi, je vois bien comment j'ai longtemps été baigné dans cette idée que le judéo-christianisme aurait introduit l'idée d'un temps continu et orienté, la flèche de l'histoire, voilà. Avec l'idée donc qu'on va vers quelque chose, et de fait le christianisme présenté comme un jour il y aura un paradis, un jour comme une sorte d'horizon final. Mais donc alors il y avait ce déjà là et ce pas encore, là on maintient seulement le pas encore, et donc le royaume ça serait pour plus tard, comme ce que Nietzsche appellerait un arrière-monde. Et en fait, en lisant, alors pour ma part, c'est en lisant des philosophes juifs du XXe siècle, que sont Rosenzweig, Levinas, Benjamin, des auteurs comme ça, j'ai réalisé à quel point, en fait, la temporalité, et la temporalité biblique par excellence, c'était l'expérience de la diachronie plutôt que de la synchronie, c'est-à-dire du temps en tant qu'il manifeste une altérité. C'est chaque instant est nouveau, chaque instant vient rompre la continuité. Et le temps dans la Bible, le paradigme pour moi, c'est la Pâque juive, qui précisément n'est pas l'histoire d'un récit qui irait progressivement vers un mieux, mais qui est l'histoire d'une domination et d'une libération, d'une interruption. Et cette libération qui se rejoue ensuite à l'infini, avec toutes les histoires des rois, des juges, dans lesquelles à chaque fois le peuple s'éloigne, le peuple de nouveau est jugé, le peuple de nouveau se retourne vers Dieu, etc. Et donc l'histoire comme, qui nous ramène toujours, toujours au maintenant, au ici et maintenant. Et ça, ça me semble être quelque chose d'assez important. Et pour aller vers les conséquences politiques, parce que c'était un peu aussi l'enjeu de ce podcast, d'essayer de penser qu'est-ce que le messianisme a à nous dire dans notre manière de penser la temporalité politique, ça veut dire qu'avec Jésus, on n'est pas du tout dans « bon, peu importe la vie d'aujourd'hui, ce qui compte c'est qu'un jour ça ira mieux, il y aura le paradis, et là il n'y aura plus de larmes, là il n'y aura plus de riches et de pauvres », mais c'est « ici et maintenant, vivons ». Dans le royaume, c'est-à-dire dans « il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni païen », comme dit saint Paul, etc. Alors ça me semble introduire une temporalité politique complètement différente. Il y avait tout à l'heure cette expression d'amener la sainteté à la vie quotidienne. Ça me fait penser à une formule dans un tout autre registre du comité invisible, donc ce groupe plutôt anarchisant, qui dit « il faut penser l'insurrection comme forme de vie quotidienne ». Il me semble y avoir quelque chose là-dedans de très messianique. Penser le quotidien messianique. Quoi.
Une des choses qui est très frappante aussi, qu'on ne réalise pas souvent, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, pourquoi Jésus choisit 12 apôtres dès le départ? Normalement, quand un prophète, on le voit avec Élie et Élisée, quand un homme de Dieu lance une affaire, bah, quand il comprend que c'est fini, quand il comprend qu'il va mourir ou qu'il faut qu'il passe la main, c'est le cas d'Élie avec Élisée, eh ben, il choisit des successeurs. Mais Jésus commence par ça. Il n'a encore quasiment rien fait. Et il appelle à lui les 12, et à un moment, il va les envoyer. Mais enfin, en gros, la plupart du temps, ils ne servent à rien, ils ne comprennent rien. Et ils sont plutôt un obstacle qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que Jésus veut créer une forme de vie communautaire. Donc ce partage des biens, ce partage des repas, cette prière en commun, apprends-nous à prier, etc., s'incarne dans un groupe. Et ça, dès le départ. Ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est que ce que tu as dit sur la Bible, c'est des traumatismes surmontés. C'est une suite de catastrophes, hein, l'Égypte, l'exil, la destruction, une suite de catastrophes surmontées, où la foi trouve des ressources insoupçonnées pour s'incarner. Et c'est un dieu de la résilience, c'est un dieu un dieu de ceux qui se prennent des coups. Là, Il y a une tension dans le Nouveau Testament entre l'Esprit Saint tel qu'il apparaît dans le ministère de Jésus, mais on va dire extrêmement limité à sa personne et à son pouvoir, si je puis dire, à son exousia, à son autorité, que lui-même rapporte toujours à Dieu, jamais à lui. Voilà, et avec cette phrase typiquement jésuanique et merveilleuse, « Ta foi t'a sauvé ». La réponse théologique correcte, ça veut dire « Dieu t'a sauvé », ce qui n'est pas faux. Dieu t'a sauvé par moi, c'est un petit peu autocentrique, mais ce ne serait pas entièrement faux. Alors, le gourou dirait « je t'ai sauvé », bon. Non, il dit « ta foi t'a sauvé ». Alors que la personne a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose et qu'évidemment, elle a bénéficié de la grâce. En vrai prophète, en vrai homme de Dieu, il valorise la réponse de l'homme, il valorise l'action de l'homme. Mais la nouveauté, c'est que les premiers chrétiens croient que cet esprit prophétique, cet esprit annoncé par Joël, par Isaïe, etc., il est là maintenant dans la communauté. Et il fait réaliser des choses étonnantes, effectivement, en termes de signes du royaume. Jeunes gens, vieilles gens, hommes, femmes, esclaves, hommes libres, blancs, noirs, scythes, barbares, voilà, éthiopiens. Donc il y a une espèce de... Au fond, on est très intrigué aujourd'hui par la question de la résurrection, les preuves de la résurrection, mais qui était là, etc. Mais les premiers chrétiens, le tombeau, machin, c'était qui les premiers témoins ? Les premiers chrétiens, ils disent, mais la preuve, on l'a, c'est l'Esprit Saint. Ça prouve que c'est l'Esprit de Jésus qui est sur Jésus et qu'il est ressuscité, vu que son esprit fait faire toutes ces choses-là. Et c'est tout le thème de la Pentecôte tel qu'il est traduit dans lui. Et donc, le signe que Dieu est là, que Dieu existe et qu'il est là, ce sont les signes du royaume présents dans la communauté, donc effectivement dans cette forme de vie. Alors, il faudrait éviter évidemment l'idéalisation absolue. Donc les apôtres souvent ne comprennent rien. Alors là, je crois que ça répond un petit peu à une tentation très profonde de toutes les religions à révélation, d'ailleurs, sur les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est de croire que il y a eu un âge, les premiers chrétiens, c'est que ces apôtres, c'est extraordinaire. À l'époque, on croyait vraiment, on réalisait des trucs. Bon. Et alors, Marc est très conscient de ça, les premiers évangélistes, et donc ils nous disent, non, attendez, c'était des gens comme nous. Ils ont raté plein de trains, il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris. Et c'est des gens qui ont rencontré Jésus une fois, qu'ils ne connaissaient pas, des anonymes qui ont tout compris. Et puis deux, quand il décrit, ce qui est un lourd poids à porter pour l'Église, mais en même temps une espèce d'appel permanent, la description de ce Libus communismus chrétien, non, au début des Actes des Apôtres, hein, ce communisme d'amour chrétien, ils partageaient tout en commun, tout ça c'était merveilleux, on a l'impression que c'est le paradis déjà. Et au moment où Luc introduit, c'est que Luc qui fait ça, s'appuyant d'ailleurs sur l'idéal grec philosophique du partage des communs entre amis, de l'idéal des juifs et des esséniens, effectivement aussi de la solidarité, qui était, comme les kibbutz ont été un peu les seuls à incarner l'idéal communiste, les esséniens incarnaient cet idéal grec de manière concrète, il introduit ça, et au chapitre 5, il y a Ananie et Saphir. Au moment où il introduit le mot « église », il introduit le péché originel. Le mot « église » apparaît au moment où il y a le péché avec Ananie et Saphir. Donc Ananie et Saphir, c'est un couple, au chapitre 5 des Actes, qui dissimule, ils vendent une propriété, ils ont fait sans doute le vœu, ou en tout cas ils ont promis de le donner à la communauté, pour que ça soit partagé auprès des nécessiteux de la communauté, et ils en gardent une partie. Pour dire, c'est pas grave, c'est déjà généreux, ils ont donné une bonne partie, mais Pierre dit non. Voilà, il faut qu'un oui soit oui, il faut savoir ce que vous dites.
Mais bon. Ça dit quelque chose d'incroyable de la communauté chrétienne. Ça dit à quel point la communauté chrétienne a à voir avec la vie matérielle, a à voir avec les choses très concrètes que sont les rapports sociaux, les rapports humains, les rapports économiques.
Absolument.
Ça dit à quel point l'Église n'est pas une sorte de groupe spirituel auquel on appartiendrait par adhésion à un certain nombre de dogmes, mais que l'Église est véritablement cette communauté messianique de cette vie ici et maintenant selon le royaume.
Et qui partagent le repas et l'argent. Paul consacre des chapitres entiers à la collecte qu'il fait pour Jérusalem. Et malheureusement, on ne le lit pas le dimanche à la messe. On lit les passages compliqués, comme dit Paul, c'est théologique, c'est compliqué, on ne comprend rien. On prend des raisonnements théologiques de ces sections théologiques, mais c'est tout aussi théologique quand il parle de le Christ riche qu'il était s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, ce qui est un paradoxe. Il dit, bon, donnez. Et Paul donne sa vie pour l'argent. Pour la communion, pourquoi Paul monte à Jérusalem où il va être arrêté? Il amène beaucoup d'argent. Parce que ces communautés en Grèce, en Galatie, depuis 10 ans, 8 ou 10, collectent des sous pour aider les chrétiens de Jérusalem. Pas de partage financier entre chrétiens, pas d'église. Pas de partage financier entre différentes églises, pas de christianisme. Ça, c'est quelque chose de très très fort. Alors on s'étonne des gens, des théologiens allemands, toujours le soupçon allemand, en 1880, disent, mais pourquoi Luc ne nous parle pas de la collecte? Peut-être que peut-être qu'elle n'a pas eu lieu, peut-être que ça s'est mal passé, peut-être que... Et ben Luc, il va direct à la racine, il va direct à la leçon spirituelle. Il dit, Paul monte à Jérusalem poussé par l'Esprit-Saint. Nous, nous savons que c'est sans doute poussé par l'Esprit-Saint, mais que c'est pour amener de l'argent bien concret. Donc Luc, il dit, oui, mais je, voilà, cette affaire d'argent, c'est sacramentel. Cet argent est un signe visible d'une communion invisible entre chrétiens, pagano-chrétiens de Grèce et judéo-chrétiens de Jérusalem. Un peu comme Jésus. Pourquoi Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque? Ben pour fêter Pâques, comme il monte trois fois par an, sans doute. On suit plutôt actuellement la chronologie de Jean. Jésus montait pour les grandes fêtes, en bon Galiléen pieux. Bon. Alors maintenant, nous, nous allons dire, c'est poussé par l'Esprit-Saint, et pour offrir sa vie pour vous et pour la multitude, en reprenant le quatrième chant, c'est-à-dire pour Israël et pour les nations. Ça, je crois que c'est très important qu'il y ait pour vous les douze, c'est-à-dire douze, c'est Israël, et pour la multitude, c'est-à-dire les nations, pour le monde entier. Donc, c'est un geste d'offrande spirituelle.
Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, vous montrez qu'il y a à la fois un changement radical de forme de vie, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de ici et maintenant qu'il faut vivre tout de suite. Donc, le Christ appelle à l'amour fraternel, notamment.
Et qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit-Saint reçu.
Qui vient de Dieu, le fait de vivre avec les petits, d'avoir cette attention pour les petits, etc. Et en même temps, comme vous dites, dès les premières communautés chrétiennes, il y a cette difficulté à mettre ça en œuvre, mais qui n'est pas présentée justement comme un obstacle. Parce que souvent, on peut avoir l'impression que, comme ceci, comme de toute façon, on va être confronté au péché de l'un, aux difficultés fraternelles, aux embrouilles, en fait, le programme chrétien serait un programme impossible et qu'il nous faut prier pour qu'un jour, enfin, l'eschatologie arrive et que, alors, dans ce moment-là, à ce moment-là, on pourra vivre en frère, on pourra mettre les biens en commun, on pourra s'occuper des plus petits, etc. Mais actuellement, nous sommes dans cette... disons que c'est un peu un argument pragmatique ou un argument un peu réaliste, c'est-à-dire actuellement, on voit bien que les hommes étant tels qu'ils sont, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, donc on ne peut pas... disons que cet idéal ou cette forme de vie nouvelle, c'est idéaliste. Et c'est souvent l'argument qu'on entend en disant, mais si vous cherchez à... je sais pas, je prends l'exemple par exemple de l'accueil des exilés, où en fait vous êtes naïf, vous êtes idéaliste, vous pensez vivre dans un temps qui n'est pas encore arrivé. Donc, comment est-ce que vous voyez justement cette relation, en fait, c'est une tension perpétuelle entre il est déjà là et à la fois il est lié à ce péché. Est-ce qu'on peut appeler les chrétiens à justement cet acte de foi qui est que si nous ne vivons pas dès aujourd'hui de cette loi de notre Messie, il ne pourra entre guillemets pas venir. Nous avons témoigné par notre vie sans doute naïve aux yeux des autres, sans doute illusoire aux yeux des autres, que le Christ est bien vivant au milieu de nous.
Alors, deux éléments me viennent. D'une part, il faut prendre au sérieux tout le Nouveau Testament. Et où il y a les deux. Par exemple, Paul est extraordinaire. Paul, il arrive à la fois à faire des appels absolument incroyables, on va dire, à la sainteté et à dire « votre vie a changé ». Il dit « vous êtes ressuscité avec le Christ ». Voilà, l'être ancien s'en est allé. Enfin, un appel, qui est plus qu'un appel d'ailleurs, un déclaratif, bon, voilà, l'indicatif du salut. Vous avez été sauvé, vous êtes une créature, vous êtes dans l'Esprit-Saint, etc. Et en même temps, quand il fait ses exhortations, il est ultra... Parce que Paul, c'est un pasteur, c'est pas un théologien en chambre. Il dit, arrêtez de vous bourrer la gueule, de vous disputer. Donc il sait bien qu'il y a des péchés ordinaires de gens ordinaires. Il prend pas les chrétiens pour des anges. Bon. Mais il tire très fort du côté de l'idéal, parce qu'il faut tirer du côté de l'idéal. Il dit, c'est à ça que vous avez été appelés, c'est pour ça que le Christ est mort, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, et alors au fond, et la deuxième idée que j'aimerais dire, c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps, au fond, sur le pourquoi des grandes persécutions anti-juives, antisémites de l'histoire chrétienne, et j'en avais parlé il y a 10 ans avec le grand rabbin de France, à l'époque, il n'était plus grand rabbin, enfin Gilles Bernheim, ça l'avait intéressé. Au fond, les juifs nous rappellent en permanence que nous ne sommes pas ce que nous devons être. Et qu'au fond, au Moyen-Âge, quand nous étions devenus la religion instituée, justement, voilà, on se confesse selon le décalogue, au fond, on faisait du christianisme, et c'est toujours un risque, un judaïsme pour les nuls, un judaïsme facile. Le judaïsme, quand on le vit de manière orthodoxe, on le vit vraiment, c'est difficile, il y a beaucoup de commandements, c'est très exigeant aussi. Bon. Mais on dit, voilà, bah, c'est pour tout le monde, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de règles, tu ne manges pas de poisson le vendredi, tu le décalogues, tu trompes pas ta femme, tu ne vas pas ta femme, tout va bien, tu payes tes impôts, et puis tu es en règle. Bon, mais ça, c'est une caricature du christianisme. Et au fond... Les juifs qui, dans les disputations régulièrement, disaient « Mais en quoi vous êtes messianique ? En quoi vous représentez une nouvelle communauté ? En quoi l'Esprit-Saint des prophètes ? En quoi vous représentez vraiment Israël et les nations ? Et qu'est-ce que vous faites d'ailleurs des juifs qui sont en voie de saint ? Est-ce qu'ils sont vraiment à égalité avec les chrétiens ?» Ces questions espagnoles, ben, il marquait des points quand même. Et donc ça, c'était insupportable au fond pour beaucoup de chrétiens dans l'histoire médiévale. On aurait aimé devenir le nouveau judaïsme, au fond, de devenir une nouvelle religion. Alors oui, eschatologique, on attend des choses pour la fin des temps, mais enfin, d'ici là, on s'organise, et puis on fait des états, on fait des églises, on fait des trucs. Bon. Et au fond, c'est ça, je pense, qui est providentiel. On pourrait lire Romains 9, 11, la lettre aux Romains dans ce sens-là. L'existence croyante du judaïsme fidèle nous oblige en permanence à nous demander qui nous sommes et est-ce que nous vivons ce que nous prétendons vivre, est-ce que nous sommes vraiment ce que nous prétendons être, c'est-à-dire des messianiques, des gens qui sont animés par l'Esprit de Jésus pour avoir la même radicalité dans l'écoute de Dieu ici et maintenant, dans l'écoute de l'Esprit Saint ici et maintenant, que Jésus. Voilà. Moi, je me souviens d'un chrétien africain de Côte d'Ivoire, Daniel Draman Koulibaly, il y a une trentaine d'années maintenant, qui est un converti sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire. À un moment, il discute avec un musulman la question « Est-ce que le christianisme est une religion facile ou difficile ?» Ça dépend par où on... Alors, évidemment, le musulman dit, écoutez, votre carême par rapport à Ramadan, vous êtes gentil, mais enfin, bon. Puis alors, il n'y a pas beaucoup de règles chez vous, c'est cool. Il réfléchit, il dit, oui, mais enfin, pardonner du fond de son cœur à son ennemi, c'est plus dur. Bon, donner ses biens aux pauvres, etc., enfin, si on prend vraiment la manière de vivre de Jésus, etc., bon, voilà, où on met la barre. Donc, en fait... Jésus ne voulait pas créer un petit mouvement gentillet d'ouverture du judaïsme aux païens avec un prix d'abonnement assez bas. Hein, voilà, on avait 613 commandements, maintenant il n'y en a plus que 10 ou 2, même dans le point de vue où on se place. Parce que, par exemple, la logique de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain », mais ce n'est plus des commandements, ça. Ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire c'est pas, on ne passe pas de 613 à 2, on fait exploser le système. Mmh. C'est-à-dire que la vie n'est plus « est-ce que j'ai fait le nombre de trucs pour être en règle ?» Parce que qui peut dire qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même en permanence?
Ça veut dire que par rapport à cette question du plus tard, du royaume, etc., la venue de Dieu, la venue du Messie, c'est finalement le présent en réalité. C'est Dieu est celui qui vient. Et il n'est pas celui qui viendra, il est celui qui vient.
L'irruption.
Et il est celui qui vient au présent, et qui vient nous juger au présent, qui fait que chaque instant de notre vie est face à ce jugement total de Dieu, et donc maintient dans le présent cette tension énorme qui n'est pas on va se contenter d'un truc simple ici parce que plus tard ça sera mieux, ça marchera mieux. Et on ne se contente pas d'un réalisme, oh bon, bah, c'est pas grave, les migrants, bah, tant pis, de toute façon, dans le royaume de Dieu, on sera tous égaux. Mais c'est ici, maintenant, le jugement de Dieu, ici, maintenant, Dieu vient.
Et pour tout le monde, et ouvert à tous. Alors là, c'est clair que. Christianisme, de ce point de vue-là, est une nouveauté parce que ça introduit un système de foi, on va dire, de conviction, qui transcende les limites d'un peuple. Mm-hmm. Ça, c'est une nouveauté dans l'Antiquité. C'est ça, un peu, l'intuition de Boyarine, à partir du 4e, 5e siècle, c'est qu'au fond, cette idée qu'il y a des istes, qu'il y a des religions auxquelles on peut appartenir, quel que soit son peuple, c'est une nouveauté, ça, dans l'histoire de l'humanité. C'est une nouveauté.
Et peut-être, on arrive un peu à la fin de ce podcast, mais je reviens sur un petit élément dont on a parlé tout à l'heure, de cette communauté qui partage l'argent. L'argent comme sacramentel, de signe de la communauté. Alors évidemment, moi ça m'a tout de suite fait penser, parce que l'argent sacramentel, alors moi je réagis, parce qu'aujourd'hui l'argent, c'est le règne de l'argent, et qui précisément est le règne de l'accumulation de l'argent, qui est aussi un sacrement. Mais quel sacrement? Précisément le sacrement démoniaque, qui est la présence visible, de cet invisible démoniaque qu'est l'écrasement des hommes et des femmes et de la destruction des écosystèmes. Mais alors, du coup, ça m'a fait penser quelque chose, peut-être une intuition qui dit aussi quelque chose de la vocation politique de cette communauté messianique qu'est l'Église, qui est précisément dans l'argent comme sacramentel, à travers le partage, et l'Église incarne une sorte de contre-modèle de ce qu'est le capitalisme, c'est-à-dire de l'argent comme accumulation. Alors, et là, il y aurait une sorte de contradiction entre l'argent accumulation et l'argent partage. La communauté ecclésiale est en son existence, ou devrait être en son existence, une sorte de contradiction performative et révolutionnaire de ce règne.
Et c'est au centre de l'enseignement de Jésus. Parce que entre vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, et Mammon, c'est vraiment l'argent comme diabolisé, on pourrait presque dire, comme personnifié, et le centre du Notre Père. Le Notre Père qui est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est une... Là aussi, c'est nouveauté et continuité. Ça s'inscrit complètement dans la Bible. C'est une prière synthétique qui, mise en parallèle par exemple des 18 bénédictions, est très proche sur beaucoup de thèmes, mais qui capture de manière très courte et efficace le cœur de l'enseignement de Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a au centre ? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et avec une expression sans doute en araméen qui fait référence à la manne. La manne, c'est l'anti-accumulation, par définition. Et c'est la vie en tant qu'elle se reçoit de Dieu
la
en permanence.
Le pain donné par Dieu dans le désert à Moïse et son peuple, le pain qui est donné chaque matin et qu'on ne peut pas garder avoir pour le lendemain.
Voilà. Et qui est ce qu'on appelle en hébreu lechem, oni, le pain de pauvreté, parce qu'il se ramasse par terre et qui n'a pas, il ne ressemble pas à du vrai pain. Ce qui est pour moi une question de fond, d'ailleurs, dans la préparation à la première communion, qu'on ne dit pas assez aux enfants, surtout dans un pays comme la France, où on sait ce que c'est que le bon pain. Je suis désolé, l'hostie, ce n'est pas du pain. Ce n'est pas du pain. Il manque 2 ingrédients sur 4. Il manque le sel et la levure. C'est le pain de pauvreté. C'est la croix. Le vin, c'est la résurrection. Le vin, c'est du vrai vin. Mais le pain, bon. Et donc, Jésus a un rapport à la providence, à la manne, dans lequel, effectivement, l'argent doit en permanence, ici et maintenant, être au service de la vie et de la relation, ici et maintenant.
Merci beaucoup, parce que ça nous permet vraiment de redécouvrir notamment notre foi, non pas justement comme quelque chose, comme un discours idéal, comme un horizon qui pourrait nous inspirer, mais vraiment comme un appel à suivre le Christ, donc c'est-à-dire à faire confiance à cette providence, à refuser les lois du monde, à refuser justement ce règne de l'accumulation, pour se dire qu'aujourd'hui et maintenant, on est appelé à vivre de cette fraternité, on est appelé à vivre de la providence, on est appelé à vivre de cette foi, et que le Christ, il est justement révolutionnaire en le sens où il nous permet de nous convertir, de changer notre regard, de changer nos peurs ou nos besoins de nous rassurer par justement toutes ces organisations. Vous parliez justement du fait qu'on risque toujours de redevenir une religion, où on a des lois, où on se protège de la peur, je ne sais pas, de la damnation, j'en sais rien. On se protège constamment, alors que justement, il est là, il est déjà là. Il ne nous invite pas non pas à des dogmes, mais à une forme de vie, à le suivre, à vivre avec lui. Et effectivement, par rapport à notre désir de retrouver
je
le sens révolutionnaire
un peu,
de la foi.
Pas tellement à vivre avec lui, ce n'est pas son problème, ça. Au cœur du logiciel théologique de Jésus, ça John Mayer le montre très bien, c'est la théologie de la création. C'est-à-dire, Jésus, c'est quelqu'un qui prend radicalement au sérieux l'idée que Dieu a créé l'être humain. Il a créé à son image. Dieu pardonne, l'homme peut pardonner. Dieu donne la vie, l'homme peut donner la vie. Dieu dit oui et les choses sont, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il a une confiance absolue, une foi absolue dans cette création de l'être humain à l'image de Dieu. Donc, ce que j'appelle l'évangile d'Obama, yes you can, yes we can. Pourquoi l'être humain peut ? Parce qu'il peut. Donc c'est pas, je ne vous demande pas des choses extraordinaires, je vous demande de réaliser ce pourquoi vous êtes créé. Et ensuite, il est aussi profondément fidèle au Dieu d'Israël, au Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible, et quand il structure son enseignement sur ces trois, ce que j'appelle les trois piliers, c'était Abba, Père, Royaume de Dieu, les petits, il fait une synthèse de tout l'enseignement biblique et prophétique, autour de termes à la fois qu'il a, je pense, forgé dans sa prière et qui sont en même temps totalement cohérents, en fait, avec le parcours biblique. C'est ça qui est très fort.
Merci beaucoup, Marc, pour ce partage. Peut-être finir sur ces mots de l'Apocalypse. Viens, viens, cette parole qui s'adresse au Messie.
Maranatha.
Que celui qui entende dise « Viens, Maranatha » et que l'homme assoiffé s'approche. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Sizatana, Anastasia, Anastasia.